Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour, un médecin, pourquoi faire ? En Grande-Bretagne, les personnes atteintes de dépression sont invitées à dialoguer avec un ordinateur, alors qu'en Russie, la grande majorité des malades achètent directement leurs médicaments en libre-service et sans ordonnance. La nouvelle immigration russe à Berlin, ils étaient déjà venus en masse dans les années 20, c'est à la une de la Gazette de Berlin ce mois-ci. Le portrait d'une figure déchue du ski de fond autrichien, l'entraîneur Emil Ohr. À suivre enfin dans notre carnet de voyage, le port d'Odessa et son marché épicé. Si le système de santé britannique est sorti du rouge, il reste toujours très difficile de se faire soigner au Royaume-Uni, en particulier dans le secteur de la psychiatrie. Pour désengorger les files d'attente, le National Health Service a développé un système de soins très original qui se veut une alternative aux séances de psychothérapie. Les patients souffrant de dépression légère, de crise de panique ou de TOC, les tics de comportement, sont invités à pratiquer l'automédication. Il leur suffit d'avoir chez eux un ordinateur disposant du logiciel Fear Fighter, le reportage de Muriel Delcroix.
Peur panique dans la rue, dans le métro ou en avion, pour tous les patients anglais qui depuis des années souffrent de ces violentes crises d'angoisse et désespèrent de jamais voir un thérapeute dans un pays où il faut attendre jusqu'à 6 mois pour consulter, il y a désormais une issue, le Fear Fighter. Littéralement, le chasseur de peur consiste en fait à s'asseoir devant un ordinateur et raconter ses problèmes à un logiciel spécialisé dans la lutte contre les crises de panique donc, mais aussi les dépressions légères et les phobies.
On leur donne un mot de passe pour y avoir accès. Ensuite, ils vont taper leur nom, par exemple Jean. Le programme dit alors « Bonjour Jean, quel est votre problème ?» et va les amener à examiner ce qui leur fait peur. Ça aide aussi les patients à comprendre le traitement proposé, qui est de les aider à confronter la situation redoutée pendant des périodes de plus en plus longues, jour après jour, pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'ils s'habituent à ces situations et surmontent leur phobie.
Le docteur Isaac Marks est le co-créateur d'un projet qu'il a porté pendant 13 ans jusqu'à l'heure de la retraite. Et pour l'ancien professeur à l'Institut de psychiatrie du King's College de Londres, ce traitement est rendu possible par le fait que les personnes souffrant de phobies, comme la peur des araignées, reçoivent en général la même thérapie de base.
Ça peut consister à inciter les patients à attraper une toute petite araignée, la mettre dans une bouteille et l'amener avec eux partout où ils vont. Et puis, quand ils se sont habitués à ça, ils peuvent alors mettre une araignée un peu plus grosse, et de plus en plus grosse, jusqu'à ce qu'ils soient blasés.
On estime que plusieurs milliers de Britanniques ont déjà été traités avec cette méthode innovante et économique, et qu'ils en retirent autant de bénéfices que ceux conseillés par des thérapeutes. Et pourtant, le Fear Fighter est loin de plaire à tout le monde, à commencer par les psychiatres eux-mêmes. Le professeur Paul Salkowskis dirige le service de psychologie du même King's College Hospital, et pour lui, un logiciel ne peut pas remplacer un thérapeute de chair et d'os.
Ces programmes aident des personnes qui souffrent de problèmes de faible intensité, de la même manière que peuvent le faire un voisin, un prêtre ou une association. Mais dès qu'un problème devient plus chronique, plus sévère et plus compliqué, il est très clair que ces programmes ne fonctionnent pas très bien. Par exemple, si vous avez peur des chiens ou que vous avez eu une mauvaise expérience avec un chien, un logiciel qui vous encourage à confronter cette peur peut être une bonne chose. Ceci dit, si parallèlement vous avez une très faible estime de vous-même, parce que pour d'autres raisons vous avez dans le passé été victime d'un traumatisme ou d'abus, dans ce cas-là, vous avez peut-être besoin qu'une autre personne vous aide à faire le lien et vous permettra de changer ce qu'il faut changer.
Au-delà des limites de ce logiciel, ce qui déplaît en effet fortement à la profession, c'est la suggestion qu'un ordinateur sans âme puisse obtenir les mêmes résultats qu'un thérapeute. Mais c'est une suggestion que le docteur Marx est loin de trouver humiliante.
En fait, je pense plutôt que c'est un triomphe pour notre profession d'avoir élaboré des principes de traitement d'un degré d'efficacité tel que nous pouvons maintenant les déléguer à un ordinateur.
Et pensez-vous que quelqu'un comme Sigmund Freud approuverait ?
Je pense que Freud était un pragmatique. Et en fait, Freud lui-même a dit en 1919 que vous pouviez analyser un patient indéfiniment sans qu'il vous livre jamais sa phobie. Ce n'est que quand le patient lui-même accepte de confronter le problème qu'il commencera à aller mieux. Donc, on pourrait tout à fait appeler ça un traitement freudien.
Freudien ou pas, le Fear Fighter pourrait en tout cas s'avérer une alternative salvatrice pour les nombreux patients qui attendent ou qui n'attendent plus, puisque près de 90% des Britanniques souffrant de dépression légère ne voient jamais de thérapeute.
Autre façon de combattre la dépression ou ses angoisses sans pour autant les résoudre, les médicaments. En Europe, les Français restent les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. La France qui encourage également l'automédication. À partir de mai prochain, pas loin de 200 médicaments seront accessibles en libre-service dans les pharmacies. En tout cas, ceux qui peuvent être obtenus sans ordonnance, des produits contre la toux, la douleur ou pour le sevrage tabagique. L'objectif est de favoriser la libre concurrence pour redonner des couleurs à l'assurance maladie déficitaire. En Russie, pas d'ordonnance, pas de conseil, encore moins de médecins. La majorité des médicaments s'achètent librement, précision d'Alexandre Billette.
Hydrocodone, Vicodine, Codéine, Phentermine, Valium, autant de médicaments vendus sous ordonnance en France et dans la plupart des pays, mais en Russie, vous pouvez les acheter à la pharmacie sans problème et sans être passé chez le médecin auparavant. Le contrôle des produits pharmaceutiques a toujours été très libéral ici. Conséquence, l'automédication est depuis longtemps répandue. Par exemple, plus de 50% des Russes disent se soigner la plupart du temps sans avoir consulté un médecin. Alors qu'en France, c'est à peine 10% des malades qui disent fréquenter rarement, voire jamais, un médecin avant de se soigner. La raison, à l'époque soviétique, les soins étaient certes gratuits et les médecins étaient plutôt bien formés, mais souvent dans les petites cliniques de quartier, la qualité des soins était mauvaise et dans les villages, c'était souvent encore pire. Du coup, les autorités permettaient la vente libre de nombreux médicaments et on a pris l'habitude de se soigner soi-même en mélangeant des recettes de grand-mère et les produits du pharmacien. Une habitude qui dure encore. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les cliniques privées abondent, mais elles sont chères et elles attirent les bons médecins. Résultat, dans les petites structures publiques, la situation n'est pas vraiment meilleure qu'à l'époque soviétique. Et cette abondance de produits pharmaceutiques en vente libre a de nombreuses conséquences, notamment chez les toxicomanes et les gamins des rues, qui peuvent se concocter des mélanges explosifs sans trop de difficultés, comme la baltouchka. C'est un dérivé d'éphédrine, accessible pour environ 50 centimes d'euros. Autre conséquence plus récente, celle-là, sur Internet, les marchands ont flairé la bonne affaire. Aujourd'hui, vous pouvez acheter par carte bleue et recevoir par la poste des médicaments russes sans ordonnance.
Berlin a toujours été la porte d'entrée européenne des Russes en Europe de l'Ouest. À la fin des années 20, ils y étaient venus nombreux, notamment dans le quartier de Charlottenburg. Depuis la réunification d'Allemagne, une nouvelle immigration russe a repris. C'est l'objet du dossier de la Gazette de Berlin ce mois-ci. Régis Présent-Griot avec Frédéric Lebel.
Il y a d'abord ce qu'on appelle les Aussiedler, qui en fait sont censés être des Allemands. Ce sont des gens qui sont les descendants d'Allemands qui sont allés en Russie invités par la tsarine Catherine et qui, selon la loi allemande, ont le droit de rejoindre la mère patrie. Il y a toute une polémique parce que ils n'ont d'Allemands parfois que le nom. Ce sont des gens qui parlent pas nécessairement russe, pas nécessairement allemand, même rarement allemand. Et en même temps, ils recouvrent leur nationalité nationalité où ils trouvent la nationalité allemande de façon très facile. Donc il y a une polémique par rapport à d'autres immigrés qui peuvent être là depuis deux ou trois générations et pour lesquels c'est moins simple. Par ailleurs, il y a une immigration économique, tout simplement. L'Allemagne est le grand pays de l'Europe occidentale et qui attire donc beaucoup de gens, pas que de la Russie, des Russes de l'ensemble de l'ex-URSS. Et puis on a aussi une population de Russes juifs ou Russes juifs ou juifs russes, on ne sait pas trop. Mais en fait, depuis les derniers jours de la DDR, il y a eu un environnement légal qui a permis aux juifs russes de s'installer en Allemagne, qui leur a offert une protection, et ça a été entériné par l'Allemagne réunifiée. C'est un petit peu ce qui explique en grande partie le renouveau de la communauté juive en Allemagne.
D'après ce que vous dites dans votre grand dossier dans la Gazette de Berlin, c'est une communauté qui n'est pas très intégrée à l'Allemagne, en tout cas qui a pas très bonne presse.
Oui, il y a souvent des problèmes linguistiques pour l'accès au travail. C'est quelque chose qu'on a retrouvé auprès de beaucoup d'interlocuteurs. Et puis c'est vrai que en Allemagne de l'Est, tout au moins, la situation des Allemands d'Allemagne n'est pas simple économiquement. Donc c'est pas des gens qui étaient très préparés à l'afflux d'immigration globale qui a pu intervenir après la réunification.
Alors votre reporter est allé dans le quartier de Marzahn, qui est le quartier russe de Berlin. Et on voit bien que c'est un quartier qui est très communautaire. Hein. Il y a des supermarchés russes à Marzahn, il y a des associations aussi très fortes.
Oui, c'est un petit peu l'endroit où aujourd'hui les Russes se retrouvent. C'est un quartier assez modeste de la périphérie, mais on est loin de l'enfer que ça peut parfois évoquer, ce mot Marzahn, ici à Berlin. Notre reporter genevoise était assez séduite presque par le côté bucolique du quartier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations justement qui travaillent autour de l'intégration de la langue aussi, puisque c'est vraiment par la langue que les gens peuvent trouver un travail et trouver leur place.
Vous publiez aussi un reportage étonnant, puisque à 100 km au nord de Berlin, il va y avoir le premier monastère orthodoxe russe de l'ouest de l'Europe. Racontez-nous comment est né ce projet.
L'idée, c'est un petit peu d'avoir à la fois un lieu de spiritualité, de recueillement, et qu'il soit aussi un pont entre les Russes et l'Allemagne. Donc ce sera effectivement un monastère, et il y aura toute une partie culturelle, plus que cultuelle.
Donc on peut s'attendre à une série d'expositions, de colloques sur les relations germano-russes.
Oui, on en est encore aux embryons parce qu'il y a des travaux à faire, il y a des financements à trouver, tout n'est pas acquis. Mais la population localement, elle est assez enthousiaste et puis beaucoup de gens s'en occupent.
Voilà, un dossier à retrouver sur le site lagazettedeberlin.de et désormais dans 2500 kiosques allemands. Ce nom-là, on n'aime plus trop le prononcer en Autriche. Emil Ohr, l'entraîneur en chef de l'équipe de ski de fond, suspendu à vie pour dopage, portrait signé Blaise Gauquelin.
Emil Ohr n'aura pas eu un nom prédestiné. Ohr, ça veut dire haut en allemand, élevé. Or, Emil Ohr est tombé bien bas. Jusqu'ici, ce quadragénaire, lui-même sportif, charismatique et beau parleur, mais quasi inconnu, avait gravi très rapidement des sommets jusqu'à atteindre la plus prestigieuse des fonctions, entraîneur en chef de l'équipe d'Autriche de ski de fond pour les Jeux Olympiques de Turin. Un poste très convoité ici et qui sied bien à cet entraîneur originaire du Liechtenstein et dont les qualités sont reconnues. On dit aussi qu'il a les pieds sur terre dans une discipline où les enjeux financiers sont considérables, car l'Autriche, c'est véritablement le pays des champions de ski, en fond comme en alpin. Ce qu'on attend de lui donc, c'est tout simplement qu'il rapporte gros. Ça, c'était le portrait fait à la veille des Jeux Olympiques de 2006. Car après les JO, pour la presse, Ohr, c'est l'homme à abattre. Au lieu de faire pleuvoir les médailles comme on le lui demandait, le gendre idéal s'est retrouvé au centre d'une des plus grosses affaires de dopage qu'aient connu les sports d'hiver et qui entachera pour des années la réputation de toute l'Autriche sur la scène internationale. Perquisition musclée dans le village olympique où l'on retrouve tout le matériel nécessaire pour les transfusions sanguines, mise en examen, aveu des skieurs, fuite pour échapper livrer à la justice italienne, Émile Hoch aura alimenté un feuilleton noir à faire pâlir les parieurs sportifs et trembler la fédération autrichienne de ski. L'homme aura été exclu à vie de la fédération internationale de ski fin février dernier. Émile Hoch est considéré 2 ans après comme le principal responsable de l'affaire des Jeux de Turin. Et un peu aussi pour la population autrichienne, comme le bouc émissaire, tout trouvé de ceux qui plus haut ne pouvaient que très difficilement ignorer ses activités.
Une curiosité musicale dans l'accent d'Europe, le groupe allemand 17 Hippies, un groupe à géométrie variable de 15 à 30 instruments qui associe professionnels et amateurs. Le titre du jour est en français, Marlène.
Marlène s'en va la nuit tombée, elle lampe ce soir toute seule. Tout au long des rues perdues, sans rouge, c'est face au mur. Elle s'arrête au coin là-bas, au bord des Wildenkerle. Voir si elle y trouve un gars qui perd son âme en elle. Comme Normette sans rien. Et ça tire où en vallée. Comme Normette sans rien. On danse tango, java et valse avant le jour. Marlène, tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et valse, tu vas jusqu'au délire. Ses yeux s'éclatent, son rouge s'efface au mur. Mais dans son cœur, personne ne voit le noir de son désir. Comme Normette sans rien. Et ça tire où en vallée. Comme Normette sans rien. On danse en gros, java et valse avant le jour.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Sur les rives de la mer Noire, en Ukraine, se trouve le port mythique d'Odessa. Sandrine Trainer a réalisé une anthologie littéraire sur cette ville foisonnante, Le goût d'Odessa, publié au Mercure de France. La région est un grenier à blé, le marché est donc à sa mesure, immense et bien achalandé. Sandrine Trainer avec Frédéric Lebel.
Si la mer s'appelle la mer Noire, c'est d'une part parce qu'elle est extrêmement dangereuse, mais c'est aussi parce qu'elle borde ce qu'on appelle les terres noires. Et les terres noires, c'est cette immense plaine ukrainienne qui est extrêmement riche, extrêmement féconde et qui produit absolument tout. J'ai vu à Odessa les plus beaux abricots de ma vie, j'y ai vu les plus beaux fruits, les plus beaux légumes, c'est absolument somptueux. Et il y a derrière la gare à Odessa, un peu à l'écart de la mer, un immense marché qui s'étale sur plus de 500 mètres, qui est extraordinairement joliment rangé, organisé, où les petites babouchkas à fichu passent dans les aller pour proposer des petites choses à grignoter aux visiteurs. C'est un des endroits très très fascinants de cette ville.
Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce marché qu'on trouve pas ailleurs ?
On y trouve des fruits comme on n'a plus du tout l'habitude d'en voir. On y trouve des tas de légumes déjà cuits et marinés. On y trouve des gros cornichons molossol. On y trouve toute la tradition de la charcuterie comme on la connaît dans les quartiers juifs européens. Cette charcuterie très très salé, épicé. On y trouve des arguments épicés.
Et à part les clients, les vendeurs, il y a aussi pas mal de chiens et chats.
Un des moments troublants de la vie de ce marché d'Odessa, parce qu'il a l'air d'être réglé presque humainement, c'est il faut y aller en fin de journée, vers 4-5 heures. En tout cas, si on y a passé la journée, il faut rester. Et puis vers 5-6 heures, vous voyez les vieilles dames ukrainiennes qui commencent à plier les stands. Et puis tout d'un coup, on sent qu'il se passe quelque chose. À l'œil nu, on le voit pas, mais si on se baisse vers le sol, on voit arriver une marée de chats qui viennent tous à la même heure. Ils sont extrêmement disciplinés, ils sont tout petits, les chats d'Odessa, ils sont très nombreux, ils sont tout petits, et ils arrivent quand les humains s'en vont, et c'est à eux qu'appartient à ce moment-là le reste du festin.
Benjamin Availlou réalisait Accent d'Europe, mise en onde par Thomas Ferrière. Attention, lundi, nouvelle formule et nouveaux horaires. En temps universel, 3h10, 3h40, 7h10, 13h10 et 19h10.